Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Voici le programme de Midi News. Évincé des Restos du Cœur après avoir témoigné face caméra de ses difficultés à vivre. En marge d'un meeting du Rassemblement National, Colombe a finalement retrouvé son poste de bénévole au sein de l'association. Mais la polémique reste et montre aussi le symbole d'une France qui ne s'en sort pas. Elle montre aussi les ravages de la désindustrialisation et aussi l'échec d'une grande partie de la gauche. On va en parler. Hier, lors du dîner annuel du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, Gabriel Attal a dénoncé l'explosion de l'antisémitisme et le Premier ministre pointe ce qui nourrit un tel climat, la France insoumise et le Rassemblement national. On va en parler aussi, sujet à débat. Et puis messieurs, encore un effort, lance Elisabeth Badinter dans son nouvel ouvrage. Être mère n'a jamais été aussi difficile, estime-t-elle dans un livre qui appelle à une meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Elle s'inquiète aussi, on en parlera, des conséquences de la chute de la démographie. Voilà, beaucoup de sujets à vous soumettre. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Barbara Durand.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 7 mai, les actes antisémites en France en hausse. Le Premier ministre a annoncé hier que 366 faits avaient été enregistrés en France au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023. La France insoumise et le Rassemblement national ont leur part de responsabilité, selon Gabriel Attal. Écoutez-le.
Une honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre, parce que le présent, c'est un député du Rassemblement national qui tenait jadis une librairie négationniste baptisée en hommage à un livre de Charles Maurras. Ce député siège aujourd'hui dans le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Parce que le présent, c'est aussi l'état-major de ce parti qui a besoin de plusieurs jours pour trancher la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était ou non antisémite.
L'entrée de Sciences Po Paris à nouveau brièvement bloquée ce matin. Des poubelles, du mobilier urbain ou encore des vélos ont été utilisés pour obstruer l'entrée du bâtiment. La police était déjà intervenue hier pour déloger des militants mobilisés pour Gaza qui avaient installé des tentes. Des chars de l'armée israélienne déployés ce matin dans Rafah. L'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de cette ville avec l'Égypte. Des pourparlers au sujet d'un possible accord de trêve sont prévus aujourd'hui au Caire. Hier, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu durable. En France, à l'approche du week-end de l'Ascension, très bonne nouvelle pour les automobilistes. Le prix des carburants à la pompe continue de baisser. Dans le détail, le gazole se vend désormais 1,758 € le litre, soit une baisse de près de 10 centimes en 3 mois. L'essence est aussi en baisse, mais cette dernière est beaucoup moins prononcée. Des écarts de prix entre l'essence et le gasoil qui suscitent quelques incompréhensions chez les automobilistes. Écoutez-les.
Je ne sais pas pourquoi les deux sont pas au même prix ou suivent pas les mêmes tendances, mais oui, je pense que c'est un mauvais signal de faire baisser les prix sur l'essence alors qu'on a besoin que les gens arrêtent d'en consommer. Ouais.
Ça, c'est les politiques des grands groupes pétroliers. Mais bon, à partir du moment où on leur a dit, de toute façon, il ne faut plus utiliser le gasoil, bon, bah, le gasoil, ils ne savent plus quoi en faire, en fait. Donc, ils le bradent.
C'est un peu contradictoire avec le fait qu'on nous impose dans Paris de rouler en essence, a priori. Donc, puis on entend tout et son contraire sur ces carburants. Une fois, on vous dit que c'est l'essence, une fois qu'on vous dit que c'est le diesel, c'était mieux. Après, c'est l'essence. C'est compliqué de s'y retrouver, je trouve.
Enfin, cette grande fierté pour la France, la nuit dernière, aux États-Unis, le basketteur Victor Wembanyama a été désigné rookie de l'année, le prix du meilleur joueur disputant sa première année dans la Ligue de basketball américaine. C'est la première fois qu'un Français reçoit cette distinction. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Sonia.
Merci, chère Barbara. Et à tout à l'heure pour le rappel des titres. Je salue nos invités. Gabriel Cluzel, merci d'être là. Bonjour, et Sonia. Bonjour à vous. Nous sommes avec Régis Le Sommier. Bonjour.
Bonjour, Sonia.
Merci de votre présence. Le général Bertrand Cavey nous accompagne. Bonjour, merci, général. Judith Vintraud, bonjour.
Bonjour,
à vous.
Sonia.
Je serais très, très intéressée de connaître vos réponses au fameux questionnaire de Bernard Pivot. Quand je me dis quelle est hier, j'ai demandé quels étaient nos invités du jour, même si je sais d'habitude que vous avez l'habitude de venir, j'aimerais bien avoir vos réponses à certaines questions générales, dont la vôtre. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous? Pas tout de suite, ne nous dites pas tout de suite. Qu'aimeriez-vous qu'il vous dise le plus tard possible, je l'espère? Et puis d'autres questions. Vous avez déjà la réponse en tête?
Oui.
Ah. Oui, oui, très bien. Affirmatif, très bien.
Oui, je suis parfois dans la nuance quand même.
Ah, mais je le sais bien, surtout sur ces sujets-là, je vous remercie. Ah, ouais. Bon, alors, il n'a pas été dans la nuance, justement, le Premier ministre, et c'est ça ce qui m'intéresse, parce que dénoncer l'explosion de l'antisémitisme, bien, c'est un fait, mais de dénoncer les causes et qui est responsable d'un tel climat, là, ça nous amène à nous intéresser à la phrase qu'il a utilisée hier. Gabriel Attal, lors de ce dîner du CRIF, a dénoncé évidemment l'explosion dans les chiffres, 366 faits au premier trimestre. Il a dénoncé les parlementaires de la France insoumise et puis aussi le Rassemblement national en pointant, sans le nommer, Jordan Bardella. Écoutons-le.
Parce que le présent, c'est un député du Rassemblement national qui tenait jadis une librairie négationniste baptisée en hommage à un livre de Charles Maurras. Ce député siège aujourd'hui dans le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Parce que le présent, c'est aussi l'état-major de ce parti qui a besoin de plusieurs jours pour trancher la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était ou non antisémite. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre.
Bon. Monsieur Attal, on peut lui reconnaître la cohérence sur la dénonciation de l'antisémitisme, mais il est aussi en campagne. Qu'avez-vous pensé de cette mise au même plan, ce parallèle entre la France insoumise et le RN, Gabriel Cluzel?
C'est de fait un dos à dos tout à fait boiteux. Et visiblement, vous l'avez dit, il est en campagne. Ça n'a absolument aucun sens, disons-le, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, combien de Juifs sont morts en France sous les coups de l'extrême droite? Zéro. En revanche, sous le coup des islamistes auxquels LFI fait les yeux doux, beaucoup. Donc, le Hamas, qu'ils appellent pour certains de leurs membres, la France insoumise, un groupe de résistance, eh bien, rappelons-le, a fait par voie de conséquence déjà un mort en France, alors qu'il n'est pas juif, mais en la personne de Dominique Bernard. Donc, il essaie de faire des parallèles qui sont très dangereux, parce qu'en réalité, il affaiblit sa démonstration puisque évidemment ça n'a rigoureusement absolument pas lieu d'être. Et puis en quoi le RN, s'agissant de la question présente, parce que j'imagine que il s'agissait de l'antisémitisme aujourd'hui, pas de l'antisémitisme dans l'histoire de France, en quoi le RN a fait montre d'ambiguïté dans son soutien à Israël? Ben moi, il va falloir qu'on m'explique. Je crois que c'est dommage de pas être capable de faire oui, preuve d'honnêteté, tout simplement.
Mais c'est dommage pour la lutte, comme vous le dites, contre l'antisémitisme, parce que le RN, il peut le combattre sur plein de domaines. Alors, quel effet aura un tel parallèle, selon vous, Judith Vintraud?
Aucun effet, si ce n'est peut-être dans une toute petite fraction de l'électorat de gauche. N'oublions pas quand même que la période est électorale et que, comme la campagne européenne ne se passe pas au mieux, on va dire, pour la liste macroniste, toute voix est bonne à prendre. Donc, là,
y compris avec les gros sabots.
Y compris avec les gros sabots. Gabriel Attal, il est issu de la gauche. Hein. Ça n'est pas Édouard Philippe. Il n'a pas la même trajectoire. Il garde ce réflexe d'agiter un mythe qu'on appelle la tenaille identitaire. Vous savez, on serait pris en tenaille entre les islamistes et leurs partisans et les identitaires et l'extrême droite. et comme Gabriel a tout dit sur les dangers que représentent respectivement l'une et l'autre branche de la tenaille, c'est parfaitement inutile et ça l'affaiblit en crédibilité et surtout en action. Parce qu'on voit que l'action quand même, Gérald Darmanin, qui a plutôt des mots lucides sur l'antisémitisme, fait la promotion des décisions de dissolution des mouvements identitaires, mais est quand même malheureusement beaucoup plus discret avec les mouvements d'extrême gauche.
Je vous fais réagir, Régis Sommier et le général Cavier. Je voudrais ajouter à votre débat cette analyse, celle du maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France. Alors pour lui, il voit autre chose. Il dénonce surtout une majorité passive. Écoutons-le.
Cette crise du civisme, cette crise de la démocratie, cette crise de la civilisation dans laquelle nous sommes tombés depuis une cinquantaine d'années, c'est pas conceptuel, c'est pas abstrait. Et ce qui s'exprime, c'est pourquoi il faut retrouver une espérance commune. L'histoire, elle est faite de minorités actives. Le plus grave, vous savez, c'est les majorités passives. Voilà, c'est ça le plus grave dans l'histoire. C'est qu'à un moment donné, ceux qui ne sont pas capables de se lever contre l'antisémitisme, c'est ceux qui seront aussi incapables de se lever contre toute forme de racisme. C'est ceux qui seront les premiers soumis.
Vous êtes d'accord avec une telle analyse ?
Oui, mais elle s'applique de façon générale comme de façon particulière dans... J'ai servi pendant des années au sein du monde militaire. C'est une minorité qui donne le ton, qui donne l'axe, qui donne l'objectif à atteindre. Bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, une nation, plus que jamais, elle dépend de quelques groupes d'individus. Et ces groupes d'individus doivent se mobiliser parce que la situation est très, très préoccupante.
Mais qui fait l'histoire, selon vous, général ? Ce sont les minorités, parce que c'est ce qu'on avait dit à Sciences Po Paris dans d'autres universités. Est-ce que ce sont quelques dizaines ou centaines d'étudiants ? Mais est-ce que vous pointez le risque, justement, qu'ils puissent...
Vous savez, ces minorités, c'est celles qui s'affranchissent des convenances et puis qui acceptent le coup social de déroger, de déranger, qui osent tenir un discours, qui a un discours qui peut les pénaliser. Aujourd'hui, dire les choses... Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que les faits s'imposent. Sur l'antisémitisme, sur l'islamisme.
C'est vite dit, les faits ne s'imposent pas à tout le monde, malheureusement. Hein. On entend beaucoup, notamment à Sciences Po, vous savez, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, a collecté des témoignages d'étudiants juifs de Sciences Po. Vous dites les faits s'imposent, mais par exemple, quand ils parlent du 7 octobre, ils s'entendent répondre, mais oui, mais ce qu'a fait Israël et aux Palestiniens est bien, bien pire et mille fois pire.
Oui, mais si vous voulez, de par mon parcours professionnel et intellectuel, si j'ose dire, pendant 40 ans, je n'ai entendu véritablement s'imposer que l'intelligentsia dite d'ultra-gauche. C'est elle qui a donné le ton. J'ai été dans l'université, c'est eux qui s'imposent. Donc pour les contrer, il faut une minorité qui ose mener le combat. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses bougent.
Non, moi, je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Gabriel tout à l'heure, est tout à fait juste. Elle disait cette démonstration un peu boiteuse d'essayer de dire voilà une tenaille identitaire ou qu'il y a les deux côtés, les extrêmes toujours. D'abord, je trouve que c'est pas le lieu peut-être dans ce dîner du CRIF. On n'est pas en campagne quand on
le
vient
CRIF
parler.
Le CRIF a toujours fait ça. Hein.
Oui, mais on vient pas. On n'est pas en campagne stricto sensu, donc qu'il le fasse dans un meeting, ok. Mais là, en l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit le moment. Ni au vu de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et donc, je trouve par contre assez dérangeant ce parallèle parce que c'est précisément cette dénonciation de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen de l'extrême droite qui a permis de rester aveugle totalement pendant des années par rapport à ce que vous dites sur l'antisémitisme d'extrême gauche. C'est-à-dire, on a focalisé là-dessus et on n'a pas vu. Et là, on découvre aujourd'hui véritablement depuis un an cette explosion, parce que pendant des années, c'était oui, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Certes, il y a une minorité d'extrême droite.
C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il porte attention, il atténue lui-même la puissance de l'annonciation.
Pour moi, en faisant ce parallèle, d'abord, il ne montre pas où véritablement se trouve
l'antisémitisme. Mais ce qui est grave, au-delà de la majorité passive, c'est que les tenants de l'action, ceux qui avaient les rênes, qui avaient les leviers, notamment toute la haute administration, qu'elle fût donc préfectorale, militaire, policière, gendarmique, etc., Elle n'a pas dit grand-chose sur ce qui se passait depuis 40 ans.
Je suis complètement d'accord. Moi, ce qui me frappe dans ce discours, c'est qu'il n'y a absolument aucune autocritique. Parce qu'on peut dire que Gabriel Attal, son gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont péché de fait par focalisation trompeuse, c'est-à-dire que quand on montre une direction et que ça vient d'une autre, pas forcément tout le monde regarde à côté. Et puis il y a eu un double phénomène. On a laissé monter avec une grande complaisance l'extrême-gauche, la rhétorique d'extrême-gauche dans les universités. Et cette rhétorique existe depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, pourquoi l'israélien est réputé détesté? Parce qu'on dit, ah oui, c'est le colonisateur face au colonisé.
C'est l'Algérie française.
C'est la même rhétorique que pendant l'Algérie française. Et Sartre qui appelait à l'époque... Ah, mais oui, il faut le répéter.
Ah bah oui.
Sartre qui disait sur les pieds noirs... Bah, écoutez, les Européens, ils méritent une balle, hein, c'était ça dans la préface de Fanon, parce que c'était des oppresseurs. Donc
a du mal à retrouver cette phrase-là. Hein.
La phrase de Fanon?
Ah ben de Sartre.
Je vous la retrouve immédiatement parce que je l'ai dans mes...
C'est un loupé.
Et en réalité, Sartre, il a été porté au pinacle, il a été l'inspirateur de nombreux universitaires, il est dans toutes les bibliothèques scolaires. Donc, il ne faut pas s'étonner, in fine, aujourd'hui, d'assister à une certaine glorification du Hamas, comme on assiste à une glorification du FLN. C'est pas arrivé de nulle part. Et d'autre part, on a fait venir une immigration massive sans principe de précaution en provenance de pays dont on aurait pu se dire, compte tenu d'un certain antisémitisme d'atmosphère, ça peut avoir des conséquences délétères, personne ne s'est posé la question. Alors moi, je trouve un petit peu gonflé, M. Gabriel Attal, de renvoyer la responsabilité sur les autres.
On va continuer à en parler, les conséquences politiques également, mais tout d'abord les titres avec vous, Barbara.
Des chars de l'armée israélienne déployés ce matin dans Rafah. L'armée israélienne qui affirme avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de cette ville avec l'Égypte. Des pourparlers au sujet d'un possible accord de trêve sont prévus aujourd'hui au Caire. Hier, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu durable. Les actes antisémites en France en hausse, le Premier ministre l'a annoncé. Hier, 366 faits enregistrés en France au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023. Face à cette hausse, pas un acte ne doit rester impuni, pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille, a-t-il affirmé. Enfin, les Restos du Cœur ont accepté de réintégrer une de leurs bénévoles, Colombe, 60 ans, bénévole pour l'association depuis 1990. Ses propos lors d'un meeting du parti d'extrême droite avaient suscité la polémique, car pour les Restos du Cœur, il constituait une violation du principe de neutralité dans sa charte. La bénévole dit avoir hâte de reprendre ses fonctions.
Merci à vous, Barbara. Justement, vous en avez parlé dans vos titres. On va évoquer l'offensive sur Rafah. Et est-ce qu'elle va nourrir de nouvelles mobilisations et rassemblements pro-palestiniens ou plutôt anti-israéliens, pour être tout à fait exact. Tout d'abord, je voudrais qu'on écoute Sophia Aram. Elle est humoriste et je dirais qu'elle est artiste aussi. Elle est engagée avec une prise de parole. Alors qu'aujourd'hui, on qualifie, c'est étrange d'ailleurs, de courageux. Qui est en l'état est vrai compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, mais qui est une position tout à fait, j'allais dire, lucide, équilibrée. Elle l'a tenue à la cérémonie des Molières hier. Écoutons-la.
Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? De cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Si ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains.
Bien attention à nos silences qui ressemblent à la dénonciation de la majorité passive par David Lisnard. Il faut aussi se mettre dans le bain, si je puis dire, cette cérémonie. C'est-à-dire, imaginez planter le décor, vous savez, qui assiste, je ne vais pas essentialiser en disant que toutes ces personnes sont acquises à une cause, mais il est vrai, Judith Vintraub, que ce soit au Molière, que dans d'autres cérémonies ou au Festival de Cannes, on s'attend généralement à une autre forme de tribune politique.
Oui, vous pouvez dire dans le monde de la culture, et j'ajouterais de la culture subventionnée, oui, parce que j'ai mauvais esprit.
Très subventionnée.
En général, c'est pas du tout le sens du vent. Ce qui renforce encore le courage de Sophia Aram. Elle est courageuse à double titre. D'abord parce qu'elle appartient à ce monde et qu'elle en est un des éléments les plus talentueux, en tout cas dans son registre. Et puis parce qu'elle est d'origine marocaine. Et ça, on le voit aux insultes, aux tombereaux d'insultes qu'elle se prend depuis qu'elle a prononcé ces quelques mots. Évidemment, elle était accusée de trahir ses origines. C'est encore plus courageux que si elle était auvergnate, on va dire, par exemple. Donc, chapeau à elle. Et parmi les tombereaux d'insultes, il y a évidemment des centaines de courageuses anonymes, mais il y a aussi des gens qui le font à visage découvert, et même des députés, je pense à Aurélien Taché, par exemple.
Alors la question maintenant, est-ce que l'offensive sur Rafah, parce que nous vivons aussi un autre moment géopolitique qui est inflammable, va relancer et nourrir de nouvelles mobilisations, de nouveaux blocus, Sciences Po Paris et ailleurs? En tous les cas, cette offensive, elle est condamnée, c'est ainsi, par l'ensemble de la communauté quasiment internationale et surtout les États-Unis, grand allié d'Israël. Je voudrais qu'on regarde le sujet d'Augustin Donadieu et vous allez me dire, c'est de nature à rallumer la mèche, pas éteinte, eh bien, des rassemblements anti-israéliens.
Israël accentue la pression sur le Hamas. L'État hébreu a pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah avec l'Égypte tôt ce matin. Une nouvelle démonstration de force avec de nombreux blindés à quelques heures d'une nouvelle réunion déterminante entre Israël et le Hamas pour parvenir à une trêve. Hier, après plusieurs heures de négociations avec les pays médiateurs, l'organisation terroriste a accepté un cessez-le-feu durable avec ses propres conditions, à savoir un retrait militaire total, un cessez-le-feu permanent ainsi qu'un échange entre otages et prisonniers palestiniens. Une proposition loin des exigences israéliennes, selon le cabinet de Benjamin Netanyahou.
Nous examinons chaque réponse très sérieusement et prenons en compte toutes les possibilités de négociation et de retour des otages dans leur foyer le plus rapidement possible, ce qui constitue une tâche essentielle. Dans le même temps, nous poursuivons nos opérations dans la bande de Gaza et continuerons à le faire.
En attendant, Israël continue de bombarder la ville de Rafah où plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge. À la demande de l'État hébreu, ils sont des dizaines de milliers à quitter la zone pour se mettre à l'abri.
Juste avant cette offensive, dimanche, le président de la République, répondant à une interview dans la tribune dimanche, avait dit « Je condamne toute forme de rassemblement de blocus et je peux comprendre qu'une partie de la jeunesse soit attristée par une telle situation ». D'ailleurs, c'est tout à fait légitime qu'ils le disent. Mais est-ce que ce, en même temps, aujourd'hui, peut nourrir de nouveaux rassemblements, selon vous? Il est vrai, pour être totalement objectif ce matin, que la situation est totalement calme à Sciences Po Paris et dans d'autres universités générales, selon vous?
Les abonnés de l'émotion sélective vont encore se mobiliser, c'est évident. Mais s'agissant de ce que fait Israël, pour ceux qui sont allés au Proche-Orient, imaginons que ce fût l'Arabie saoudite qui fût frappée comme l'a été Israël, avec des femmes violées, dépecées, des enfants égorgés. Ils auraient réagi de façon beaucoup plus dure que ne le fait Israël. Donc il faut bien se comprendre quel est le contexte dans lequel se situe donc l'offensive israélienne. Maintenant,
mais qui entend ce genre de discours? Est-ce que ceux qui vont se mobiliser, et d'ailleurs derrière ceux qui se mobilisent aussi, hein?
Non, mais vous avez dans l'université française une continuité sociologique de petits bourgeois exaltés qui sont abonnés à l'erreur historique et à l'imposture morale. Quand on parle du Hamas, le Hamas, est-ce qu'ils se sont mobilisés lorsque des chrétiens qui ont été, il n'y a pratiquement plus de chrétiens maintenant dans la bande de Gaza? Il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans les années 2010, qui avaient fait d'ailleurs l'objet d'un débat au Parlement européen. Où était la mobilisation en IEP ou dans l'université française? Bon, les Yazidis, ça les a vraiment émus, etc. Donc, on n'est pas là pour se réjouir. Au contraire, c'est terrible ce qui se passe. Mais je demande qu'il y ait un peu plus de raison, premièrement. Et deuxièmement, il est vrai que ce qui était dit entre Netanyahou, dire que c'était un extrême droite et à côté faire du Hamas un mouvement de résistance. Non, mais ça ne...
Et d'ailleurs, ça me rappelle la rhétorique à l'époque, les mêmes slogans sur la guerre d'Algérie et le FLN, qui était effectivement appréhendé comme étant résistant. Est-ce que vous estimez que une partie des étudiants qui se mobilisent à Sciences Po Paris ou ailleurs, est-ce que vous estimez qu'ils sont, comme l'a dit Aurore Berger, soit ignorants de l'histoire, soit antisémites, ou est-ce que vous estimez que certains peuvent...
Ou
les deux, ou est-ce que vous estimez qu'il y a quand même une partie qui peut légitimement se mobiliser et qui ne porte pas pour autant des slogans pro-Hamas?
Moi, je pense qu'il y a parmi ces gens, quand on regarde par exemple les campus américains, la façon, la typologie du militant pro-Gaza aujourd'hui, c'est exactement le même qui était militant Black Lives Matter il y a 2 ans. Disons qu'il y a sur ces campus universitaires et à Sciences Po, et ce n'est pas nouveau, une frange d'extrême gauche bien implantée depuis des années, qui va prendre n'importe quelle mobilisation,
qu'est-ce qui catalyse ces slogans? C'est la figure de l'Occident, puisque l'oppresseur, l'éternel oppresseur.
Il y a un certain nombre de on parlait de décolonisation, bon, évidemment, de colonisation ou de donc là, évidemment, ça c'est un de leur cri de ralliement. Le racisme, en fait, défendre les victimes, c'est ça le. Donc il y a dans cette extrême gauche, des gens qui vont prendre n'importe quel prétexte pour protester, et à côté de ça, une majorité, enfin on va dire une minorité d'étudiants aussi, qui, sont un peu naïfs à mon sens, et comment participent de ce mouvement également en imaginant, il y a une sorte de décalage total. Et pour la plupart de ces étudiants, vous parliez de gens qui sont allés au Proche-Orient, ne sont jamais allés dans la région, ne connaissent pas du tout les réalités du terrain là-bas, ni les rapports, ni les relations entre les différentes composantes des sociétés. Donc en fait, ils sont complètement ignorants de ça. Donc il y a une espèce d'idéalisation de la victime, et c'est vrai que les Palestiniens, ça fait quand même 50 ans que c'est comme ça, même plus. Il y a toujours dans la cause palestinienne l'idée de la victime absolue.
Des pays arabes, voilà. Très souvent. On va marquer une pause, je vous poserai la même question, Gabriel, et puis on va revenir un instant sur Colombe. Vous savez qu'elle a été réintégrée, mais en creux, je vous poserai la question, de quoi est-elle le symbole, de quelle France selon vous? Et puis si véritablement les Restos du Cœur appliquaient à la lettre leur charte, qu'en serait-il pour les artistes qui se mobilisent et qui sont sur la scène pour les Restos du Cœur?
Les enfants, oui.
Voilà.
Y compris Coluche, le fondateur.
Alors, qui resterait-il sur scène si on devait voir
si on ne devait pas faire de politique?
Bernard Pivot, je vous poserai la question. Vous avez préparé?
Ah oui,
on va le faire de manière...
Je l'avais.
Ah, vous l'aviez, vous avez les réponses.
Pour la première question, oui.
Très bien. Et la suite également. Et puis, tâches ménagères, messieurs, encore un effort. Oui. Vous allez voir aussi, ça m'intéresse, sur la transidentité. Vous avez vu la défenseure des droits qui s'inquiète. Bon, on va en parler. À tout de suite. Nous allons parler dans quelques instants de Colombe, et vous allez voir que c'est une, si je puis dire, une affaire en 3 actes, puisqu'il y a la suite à présent, mais tout d'abord les titres avec vous, Barbara.
Un chauffeur de taxi condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. L'homme avait refusé de prendre en charge une famille à son arrivée à l'aéroport d'Orly, une famille envers laquelle il avait proféré des menaces antisémites. Victoire obligatoire pour le PSG ce soir face à Dortmund à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Pour rappel, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 au match aller. Enfin, la nuit dernière aux États-Unis, le basketteur Victor Wembanyama, désigné rookie de l'année, prix du meilleur joueur lors de sa première année en NBA. C'est la première fois qu'un Français reçoit cette distinction.
Merci. Vous avez vu la taille de celui qui a porté le ballon.
Imaginez-nous,
on y va comme ça, je crois qu'on se confond avec le ballon. Au mieux pas.
Il y a quelques avantages naturels, on va dire.
N'est-ce pas? Colombe, acte 1, acte 2, acte 3 et même acte 4. Je le découvre à l'instant. Acte 1, vous allez le voir dans cette séquence, c'est la séquence qui nous a tous émus et beaucoup de Français. Acte 2, c'est la polémique quand les Restos du Cœur réagissent avec leur charte. Acte 3, eh bien, vous allez voir, même y compris la gauche qui veut la récupérer. Et acte 4, vous allez voir auprès de qui elle vient de poser et qui elle a rencontré. Acte 1 d'abord.
On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère.
Acte 2, réaction des Restos du Cœur avec leur charte et leur, je ne vais pas dire soi-disant, ils ont avancé la neutralité politique, le principe d'intangibilité, on va voir comment il s'applique aux artistes, les explications d'Aminata Demphal.
Colombe sera finalement de retour au Resto du Cœur. Une décision accueillie comme un soulagement pour celle qui souhaite désormais retrouver un peu de tranquillité.
Heureuse d'être réintégrée, mais aujourd'hui, ce à quoi elle aspire, c'est au calme et de retrouver une vie normale.
À l'origine de la polémique, cette interview tournée par nos confrères de TF1, où Colombe, 60 ans, évoque les raisons de sa venue au meeting du Rassemblement National le 1er mai à Perpignan.
Regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue.
En affichant son appartenance au Resto du Cœur lors de ce meeting en période électorale, Colombe a reçu un rappel à l'ordre d'un responsable de l'association sur le principe de neutralité politique inscrit dans la charte de ses bénévoles.
C'est une initiative individuelle, cette exclusion. Alors, ce n'est pas vraiment une exclusion, on l'a poussée à la démission. En fait, ce ne sont pas les états-majors des Restos du Cœur qui lui ont demandé de partir. En fait, c'est une responsable locale qui a pris l'initiative de lui demander de démissionner.
Bénévole au Resto du Cœur depuis 34 ans et au chômage depuis 3 mois, Colombe retrouvera un emploi au mois de juin. Un poste au Centre communal d'action sociale de Perpignan, proposé par Louis Alliot, maire RN de la ville.
Acte 3, polémique. Et là, tout le monde, il faut le dire, sur la scène politique, est indigné. Une partie de la gauche tente, non pas de récupérer, mais d'essayer de comprendre ce qu'ils n'ont pas vu depuis des années, c'est-à-dire que ces classes-là, plus que, j'allais dire, malheureusement, vivant de manière plus compliquée même que les classes populaires ou classes moyennes. Léon Desfontaines, communiste, écrit une lettre. Réaction également de M. Ruffin. Et puis, acte 4, regardez cette séquence.
J'ai reçu Colombe ce matin à la mairie de Perpignan pour lui exposer un peu tout ce que l'on pouvait faire aujourd'hui, pas seulement pour elle d'ailleurs, mais pour l'ensemble des gens qui sont dans la difficulté à Perpignan. En ce qui la concerne, elle va rencontrer cet après-midi la directrice du CCAS et peut-être pour trouver un emploi, puisqu'il y a des emplois de libre qui correspondent à sa formation. Donc à tous ceux qui se sont beaucoup énervés sur cette question, à tous ceux qui se sont crus supérieurs à la bienséance et ont, sans réfléchir, exclu notre perpignanaise Colombe, eh bien je leur dis que voilà, il faut aussi prendre du temps, il faut dialoguer. C'est une citoyenne, comme tout le monde, elle aurait été communiste, que ça aurait été pareil, et on est à disposition pour aider toutes celles et ceux qui le veulent. Et en tout cas, après la discussion que je viens d'avoir avec Colombe, je sais que c'est une dame au très grand cœur, qui ne fait pas de politique, mais qui a chevillé au corps l'entraide et la solidarité avec les autres. Eh bien, j'allais vous dire bienvenue. Voilà.
Alors, on verra comment l'antenne locale des Restos du Cœur va à nouveau réagir. Mais vraiment, là, après l'acte 1, 2, 3, 4, le symbole pour vous, Rarement un moment de télévision n'a été, aussi révélateur.
Le prénom Colombe restera. Il restera sans doute le symbole de la trahison de la gauche à l'endroit des classes populaires. Et d'ailleurs, Colombe, dans la littérature, c'est le nom d'une pièce d'Anouilh et c'est un symbole d'ingénuité. Et je pense que, justement, Colombe, elle a parlé avec son cœur sans penser à la malice des autres. Donc, elle a parlé des Restos du Cœur. Elle-même est pauvre, finalement, où elle est dans la difficulté. Et ça lui donnait sa dignité d'aider les Restos du Cœur. Et elle n'a pas imaginé la façon dont ce serait reçu. Alors, je trouve que le communiqué du Restos du Cœur, c'est vraiment de la tartufferie à l'état pur. Parce que parler de neutralité, sachant que les premiers bénévoles ultra médiatisés sont les artistes qui participent au concert des Enfoirés. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui n'ait pas fait une génuflexion devant la gauche, voire l'extrême gauche.
Peut-être Vianney.
Ah, Vianney, c'est vrai. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais écoute, Patrick Bruel a refusé de faire des concerts, par exemple, dans des villes comme celle de Louis Alliot, qui sont tenues par le RN. Donc, et on peut en citer à l'infini. Donc, exiger la neutralité d'une bénévole telle que Colombe et ne pas l'exiger parce qu'elle est à gauche en réalité, hein, parce qu'ils sont à gauche des enfoirés, c'est quand même sacrément faux curé. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale.
Elle est jolie, elle est très parlante, mais vous avez tout dit. Et j'ai trouvé la lettre écrite par la tête de liste Léon Desfontaines, garçon talentueux, elle dit tout.
Oui,
elle dit tout de ce qui s'est passé et de ce vaste communicant aussi, hein, entre auparavant le vote communiste et le vote RN.
Oui, mais en fait, l'histoire de Colombe est un précipité de ce qui est arrivé à la gauche dans ce pays et à l'histoire des classes populaires et de la gauche dans ce pays depuis 40 ans. C'est extraordinaire. Je pense que malheureusement pour elle, elle va se faire à nouveau virer, parce que là, embauchée par Louis Alliot, qui bien sûr en profite pour faire sa promotion, ça va encore lui porter préjudice chez les bons esprits.
Voilà, c'est l'aide de la ville, on va dire. Elle va embaucher. Bon, mais c'est assez clair.
Il fait une mise en scène, évidemment.
Il ne trompe personne, oui, ça c'est sûr.
Qui ne trompe personne, qui est une récupération en bonne et due forme. Bon, c'est le jeu. Mais malheureusement, à part la réaction que vous citiez de la tête de liste communiste, ça a été... la condamnation quasi unanime dans le reste de la gauche. Vous vous rappelez quand Manuel Valls avait parlé de deux gauches irréconciliables. Et là, on s'aperçoit que la gauche républicaine qui veut sociale, qui veut défendre le prolétariat ou ce qu'il en reste, elle est réduite.
Mais M. Mélenchon a abandonné ça, ce n'est plus son affaire. Sauf
du tout, il a changé de peuple.
Voilà. Mais pas François Ruffin, par exemple, qui essaye de faire la jointure.
Il a changé de peuple.
Il y a quelques éléments, en effet, comme Ruffin, qui ont encore ce souci du peuple. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que on parlait du Parti communiste et du fait qu'une partie des électeurs, enfin une grosse partie des électeurs du Parti communiste sont partis vers le RN. C'est assez ancien. C'est déjà dans les années 90, mais philosophiquement, mais vous savez pourquoi? Parce que ça heurte la gauche, parce que philosophiquement, elle pense avoir ce monopole du cœur, comme on disait, ou ce monopole justement des classes populaires. Et en fait, en réalité, ces classes populaires ont déserté depuis très longtemps. Donc on plaque toujours une idée que la gauche, ça serait la générosité. Ça serait le souci du peuple, mais ce peuple-là n'est plus dans cette gauche.
Depuis la note de Miranova, 2011 ou 2012,
mais même avant,
qui explique clairement le peuple vote mal, changeons de peuple, désormais notre électorat ce sont les minorités et les femmes.
C'est pas un peuple.
Plus personne.
Ça c'est un électorat substitution.
Non mais c'est pas un peuple.
Pour la gauche c'est.
Un agglomérat de minorités, sachant qu'il faudrait peut-être encore plus précis.
Ça peut vous faire arriver au second tour d'une présidentielle. Bon, maintenant, c'est le pari de Jean-Luc Mélenchon.
La question, comment est-on arrivé à la paupérisation d'une partie des Français? Et là, c'est tout. Le bilan de 40 ans, 50 ans de désindustrialisation, également d'un travail de sape par certains syndicats, également de diabolisation de l'économie, de l'entrepreneur. Donc on est devant des véritables questions en France. Il faut produire des richesses, il n'y a pas de progrès social sans richesse.
Mais pardonnez-moi, en plus, je veux dire, pourquoi ça nous explose, je veux dire, nous tous à la figure, parce que c'est un moment à la fois politique, mais aussi, il montre la dépossession économique, quand nos usines ont été remplacées par les entrepôts, culturelle aussi, parce que c'est vrai qu'on a oublié une partie de ces classes moyennes. Bah,
les gilets jaunes sont venus les rappeler, quand même de façon magistrale.
Mais vous savez, elle n'a pas parlé, elle veut vivre dignement, c'est-à-dire elle a rappelé, comme
les gilets jaunes des origines.
Sauf que vous avez entendu parler de ce sujet pendant la campagne des européennes.
Absolument.
Voilà. Ce qui est très frappant avec Colombe, c'est que elle est dans la misère, enfin on le comprend, ou en tout cas dans la difficulté, et pourtant elle aide les autres. Elle est belle, cette France qui est vraiment dans l'adversité et qui pourtant trouve sa dignité dans l'aide qu'elle apporte aux autres. En plus, elle vient prendre à revers toute la caricature qu'on peut faire de l'électorat, ou en tout cas de ceux qui allaient au meeting. Je ne sais pas, peut-être qu'elle venait se faire une idée, mais enfin, a priori, elle était plutôt favorable, parce que les Restos du Cœur accueillent tout le monde, par définition, et beaucoup d'étrangers. Donc si Colombe avait été une abominable raciste, le couteau entre les dents, elle n'aurait pas travaillé pendant 30 ans au Restos du Cœur. Donc je pense que pour les Restos du Cœur, c'était très déstabilisant. Ils ont fait un bad buzz épouvantable, parce que quand on s'appelle les Restos du Cœur, manquer de cœur à ce point-là, ah oui, c'est quand même dramatique. C'est se prendre les pieds dans le tapis d'une façon dramatique. Donc il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va.
Il y a aussi un autre élément, c'est que le Rassemblement national parle aussi à cette France-là et pas forcément d'autres dans les droites. Ah, c'est une véritable question.
Bah, le côté
pas forcément,
social,
attention, je dis non, pas, je fais pas du tout.
Il a le Front National, un discours économique de gauche, un discours économique.
Donc c'est la totale finalement sur les sujets.
À lui tout seul, oui.
À lui tout seul.
Et c'est là où avait échoué Éric Zemmour pendant sa campagne.
J'ai posé la question hier à Sarah Knafo, qui est numéro 3 sur les 50. Je lui ai dit qu'est-ce que vous dites à toutes les colombes de France. Alors elle m'a dit. Voilà, sur la désindustrialisation, oui. Voilà ce qu'on fait, sur les impôts de production.
Mais si vous voulez, il n'a jamais réussi à percer dans cet électorat-là.
Mais je crois même qu'il vise à droite
bourgeoise. RN, en fait.
Oui, mais pardon, si l'étatisme et la redistribution étaient une garantie de bien-être pour les plus pauvres, ça se saurait.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il y a une autre explication, à mon avis, historique, qui vient de l'origine du Rassemblement national, qui était le Front National. Adhérer au Front National, c'était une petite mort sociale, quand il y a 50 ans, ou 40 ans, 30 ans, 20 ans même encore. Donc, mécaniquement, sont venus les gens qui n'avaient rien à perdre, et qui étaient les premiers à souffrir de l'immigration, puisqu'ils étaient dans les quartiers les plus populaires. Mais ils n'avaient rien à perdre sur le plan social. On n'allait pas les regarder de travers. Les avocats ne venaient pas, puisqu'ils allaient perdre leurs clients. Enfin, tous les notables ne pouvaient pas se permettre de se griller, entre guillemets, avec le Front National. Donc, je pense que Marine Le Pen a une empathie spécialement pour les classes populaires, parce qu'elle pense qu'à l'origine, quand ils étaient tous diabolisés et pestiférés, ce sont les seuls qui les ont rejoints. Donc, à mon avis, il y a une explication historique.
Non, mais il y a eu un abandon de tous ces petits Français, quelles que soient leurs origines. Voilà, donc qui se sentent méprisés par cette gauche arrogante.
Mais vous avez
arrogante.
Raison. C'est Christophe Guy, lui, depuis des années.
Oui, la France
ce
périphérique.
Ce sont les dépossédés
maintenant,
et la France périphérique.
Maintenant, les défis sont immenses, parce que quel que soit le parti, comment faire redémarrer ce pays, comment gérer la question de la dette, comment réhabiliter la valeur du travail. Donc il y a plein de défis, quel que soit le parti qui pourrait l'emporter.
Attention, c'est formidable, c'est pas le mot, parce qu'il y a la souffrance de cette femme, mais je veux dire, c'est tellement révélateur. Moi, j'y ai vu tout, la dépossession politique, économique, et même culturelle aussi. Et c'est là où vous voyez quelle réponse en pleine campagne. On a envie de dire Madame Valérier, Monsieur Glucksmann, mais tous, hein, que répondez-vous à ces gens-là ?
Mais quelque part, c'est là où on se rend compte
ces gens-là,
totalement déconnecté de ce peuple. C'est-à-dire que quand on entend Madame Hayé, on ne la voit pas avec ces gens-là. Alors oui, ils sont au meeting de Marine Le Pen. Oui, ils sont comme au meeting de Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que quelque part, par dépit, tout le monde s'est désintéressé d'eux aussi. Comme Gabriel expliquait tout à l'heure que c'était une mort sociale d'aller au RN. Il y avait tous les problèmes que soulevait le RN. Mais finalement, les autres les ont laissés tomber.
Mais c'est ça, c'est faute d'ailleurs souvent de combattants, si je peux dire, qu'il y a une hémorragie à gauche. Alors, dans quelques instants, Bernard Pivot, le questionnaire, mais tout d'abord les titres avec vous, Barbara.
Marseille en effervescence et sous haute sécurité. J-1 avant l'arrivée de la flamme olympique. Pour l'occasion, 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain. Le Vieux-Port sera piétonnisé. Un adolescent de 16 ans gravement blessé après avoir été enlevé et séquestré dimanche à Reims. Le parquet indique que son enlèvement était en lien avec une relation intime avec une jeune femme. Une enquête a été ouverte. Enfin, ce mardi, le Vietnam a fêté les 70 ans de Diem Bien Phu avec la France comme invitée. Une première sur place, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a participé aux cérémonies de commémoration.
Cher Barbara, je vous dis à tout à l'heure. Évidemment, il y a une avalanche, plus que ça, un tsunami de réactions après la disparition de Bernard Pivot. C'est résumé par Régine Delfour. Regardez.
À l'annonce de sa mort, certains ne cachent pas leur émotion.
Voilà, je suis triste, tout simplement. C'est triste. C'est un monsieur très intéressant. Il fait une émission de télévision qui a permis à beaucoup de générations, dont la mienne, d'apprendre à lire, de savoir lire ou d'écouter. Puis voilà, tout simplement, c'est une grande tristesse, mais bon, ainsi va la vie.
Pour beaucoup, c'est un monument de la culture française qui a tiré sa révérence.
Une perte importante pour le livre et pour la vie du livre en général.
On va dire que c'est notre patrimoine français, il faisait partie de notre culture française et moi je l'aimais beaucoup. Les hommes célèbres ne meurent pas, l'esprit continue à vivre.
D'autres le considéraient comme un proche et le remercient pour sa défense de la langue française.
On a perdu presque un ami, quoi. Surtout un grand Français. Il avait un grand savoir, une bonne culture, et il nous a tenté de nous en inculquer une petite partie. Bon, il a peut-être réussi avec ma génération. Les générations qui arrivent, c'est derrière, c'est moins évident, mais bon, tant pis. Mais merci à lui, surtout, d'avoir été quand même une figure du Français et de la France.
Bernard Pivot est celui qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans.
Votre mot préféré, général ?
Alors, bon, d'éducation, servir. Non, c'est vrai que ça peut...
Oh non, non, mais vous avez tellement raison. Magnifique. Judith ?
Honnêteté.
Et donc, Hein ? Régis ?
Moi, l'honneur.
Oui, il me l'a piqué.
Non, mais vous pouvez avoir le même, hein, c'est pas grave.
Non, je vais choisir un mot transgressif aujourd'hui. Maternité.
C'est beau, ça. Ouais.
Le mot que vous détestez ?
Soumission. Ah.
Moi aussi, on me l'a piqué. Ça y est.
Oh, en ce moment, on a beaucoup de synonymes. Hein. Capitulation, renoncement, renoncement.
Alors, je vais dire mauvaise foi, pour rester cohérent.
Régis.
Regret.
Ah ouais.
Bah oui, parce que si on a des regrets, ça veut dire qu'on n'a pas vécu pleinement.
Gabriel.
Relativisme.
Ah.
Tout se vaut.
Attention, là on monte en puissance. Votre drogue favorite générale ?
Le Chablis ou le Sancerre rouge.
Judith ?
L'eau.
Oh, écoutez.
La poésie.
Gabriel ?
J'ai honte, le Coca Light.
Tout est avouable. Le son, le bruit que vous aimez, général ?
Alors, la question est un peu curieuse. Moi, j'hésiterais entre Ostias dans le Requiem de Mozart ou la voix de Barbara.
On peut prendre les deux à ce niveau-là. Mmh. Le son que vous, ou le bruit que vous aimez.
N'importe quoi de Bach.
Ah.
Moi, j'adore le bruit du.
Vous avez fait la même réponse qu'un grand poète qui est Christian Bobin à cette question.
Moi, j'adore le chant du hibou le soir.
Vous êtes particulier, vous.
En campagne,
Oui, oui. Voilà. Seul en campagne, absolument. Il fait noir et c'est le chant du hibou.
Ouais.
Gabriel.
Le grand duc.
Voilà.
Gabriel. Chouette.
Bon, je restais dans la continuité de ce que j'ai dit avant, quand mes enfants rentrent et crient « maman » en bas de l'escalier.
Le son, le bruit que vous détestez, général.
Le rap. Ah non, mais je dis ce que je pense.
J'ai peur, je crois que vous allez me dire « Aya Nakamura », vous n'allez pas me relancer la polémique.
Mais non, j'aime pas le rap, puis c'est fou.
Je dis « ben trop, c'est votre droit ».
J'hésite entre aspirateur et tondeuse à gazon.
Le bruit d'un drone, c'est ce qu'il y a de pire quand on est quand on couvre la guerre.
Alors pour le grand reporter que vous êtes, quel bruit ça fait?
Ça fait un bruit de tondeuse, ou un petit bruit de moustique, mais ça vous électrise.
Gabriel,
les essuie-glaces.
Homme ou femme, homme ou femme pour illustrer sur un nouveau billet de banque.
Alors l'homme de Gaulle, la femme Jeanne d'Arc.
Bah oui. Au mois de mai, ça tombe bien Jeanne d'Arc.
Et puis je vous ai lu. Et je vous ai lu.
Merci, général. Merci. Dans le journal du dimanche, si vous pouvez, chaque dimanche. Judith.
Alors, l'homme, je dirais Jean-François Revel.
Tiens donc.
Et c'est Bernard Pivot qui m'y a fait penser parce qu'à chaque fois que Jean-François Revel y participait, c'était un monument, un feu d'artifice d'intelligence, un bonheur absolu. Je recommande à tout le monde d'aller chercher.
Parfait. Même question sur le billet de banque.
Honoré d'Estienne d'Orve.
Ah oui.
Car l'honneur et en même temps la résistance, il y a tout. Et puis, je trouve que c'est un personnage qui. On a parlé de Manoukian qui est formidable, mais je trouve qu'il passe un peu à l'as. Et j'aimerais bien le voir plus
Gabriel.
Honoré. Voilà. Et puis, femme, vous m'avez pas parlé. Edith Piaf.
Moi aussi, vous m'avez zappé ma femme. Anna Arendt.
Anna Arendt, c'est pas. Gabriel.
Arnaud Beltrame et Caroline Aigle. Ouais. Dans le militaire.
C'est bien.
Alors là, la question. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, et j'espère le plus tard possible?
Alors, tu as su douter, mais tu as cru en la passion du Christ.
Il y a eu un bug, c'était pas vous que j'attendais, retournez d'où vous venez.
je me suis...
Ben, c'est le moment, hein, pas de poser la question, attention. Gabriel, en attendant.
Tu as fait ce que tu as pu.
Bienvenue.
Bon, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est tout au plus tard à terre Midi News. On va marquer une pause et vous retrouver. Merci de nous avoir livré vos réponses, parfois intimes quand même. Hein. C'est pas facile de poser la question aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que c'est possible dans une émission
Oui.
C'est pas évident aujourd'hui.
La réponse que Mitterrand avait faite à Bernard Pivot à la question comment voudriez-vous être accueilli par Dieu, il avait dit. Par les mots « maintenant tu sais ». Vous voyez, Bernard Pivot, maintenant il sait.
Une courte pause et on se retrouve. Beaucoup de choses à soumettre à nos invités. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Deuxième partie de Midi News. Nous allons parler de transidentité avec ce que dénonce la défenseure des droits qui s'inquiète du résultat du texte LR. On va en parler avec Sophie Audugé. Merci d'être là et bonjour à vous, chère Sophie, déléguée générale de SOS Éducation. Et puis nous parlerons d'un cri d'alerte, je ne sais pas si c'est pour le dire ainsi, d'Elisabeth Badinter. Messieurs, encore un effort. Je me rends compte à l'instant que vous ne vous avez pas posé tout le questionnaire. J'aimerais savoir le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Un tour de table rapide, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est instinctif, général.
Huissier.
Judith.
Aviateur.
Gabrielle.
Danseuse.
Oh. Je suis. Régis.
Le contrôleur des impôts.
Sophie.
Parlementaire LFI.
Le mot préféré.
Comment?
Le mot préféré.
Espoir.
Oh, c'est beau. Alors c'est sur ce mot qu'on ouvre votre journal, chère Barbara, où malheureusement dans les actualités, il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est à vous et rebonjour.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de ce mardi 7 mai, la ville de Châteauroux s'apprête à rendre un dernier hommage à Mathis, ce jeune homme de 15 ans poignardé il y a 10 jours. Sa famille a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Thibault Marcheteau, vous êtes sur place pour CNews. Des centaines de personnes sont attendues dans le stade où vous vous trouvez.
Oui, absolument. La dernière cérémonie d'hommage à Mathis va commencer en tout cas dans quelques minutes. Ils sont environ 2000 personnes dans les tribunes du stade Gaston Petit à Châteauroux. Un lieu symbolique déjà pour cet adolescent, supporter de football, de la Berrichonne de Châteauroux, mais aussi l'un des seuls lieux de la ville qui peut accueillir autant de personnes. Samedi dernier, 8000 personnes étaient dans les rues de Châteauroux pour la marche blanche. On sent encore énormément d'émotion dans les paroles des Castelroussins qui se sont rassemblés pour être présents à cette dernière hommage. Je vous propose de les écouter.
Déjà, je connais son papa et puis j'ai été touchée. Ça fait une semaine que j'ai beaucoup de mal à dormir parce qu'un enfant de 15 ans qui tue un autre enfant de 15 ans pour X raisons, c'est pas normal et j'estime que ma place, elle va être là pour les soutenir et pour pas que ça recommence parce que c'est pas normal. De se tuer à n'importe quel âge, mais à 15 ans, c'est inadmissible.
Moi-même, j'ai perdu mon seul et unique enfant à l'âge de 17 ans. C'est un tout autre problème. Mais vous savez, ça m'a complètement bouleversée. En plus, je connais très bien la belle-mère de ce petit. C'est très triste, vous savez. Je plains de tout cœur les parents, de tout cœur. Parce que c'est quelque chose, vous savez, qu'on porte à vie.
Pour moi, oui, c'est très important. J'ai un petit-fils qui a cet âge-là. Et puis, je connaissais un petit peu les parents. Et puis, ça ne devrait jamais arriver. Quoi. Voilà, c'est tout.
Le cercueil a été placé sur la pelouse, à côté d'écrans géants, où vont être diffusées des photos du jeune adolescent, également des enfants avec des ballons de foot. Le cercueil quittera le stade vers 14h15 sous une holà. Un ultime clin d'œil à la passion que Mathis portait au football.
Merci beaucoup Thibault pour toutes ces précisions. Après les ors de l'Elysée, Emmanuel Macron emmène le président chinois Xi Jinping dans les Pyrénées. Une escapade personnelle censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou sur les désaccords commerciaux. Les deux dirigeants sont attendus ce midi au col du Tourmalet pour un déjeuner avec leurs épouses. C'est une grève qui va faire tache alors que la flamme olympique est attendue demain dans la cité phocéenne. Une centaine de tonnes de détritus s'accumulent dans certaines rues de Marseille. Conséquence de la grève d'une cinquantaine d'éboueurs Sur place, vous imaginez bien l'agacement des riverains, écoutez-les.
J'ai honte. Tout simplement, j'ai honte. Voilà. J'ai honte parce que c'est sale. Et que, une fois de plus, Marseille va être catégorisée dans les villes les plus sales de France.
C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas possible. Ouais, pour l'hygiène, il y a des rats, il y a tout. Ah non, 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 ça, c'est incroyable de voir tout ça. Tout le monde en parle.
Ça, c'est une désolation. C'est d'une tristesse à crever. Marseille a toujours été une ville sale. C'est une ville portuaire. Mais là, maintenant, ça dépasse tout. Et puis en plus, c'est insalubre. Hein.
Enfin, pour le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions, Paris croit en son destin. Ce soir, demi-finale retour de Ligue des Champions et victoire obligatoire pour les Parisiens face à Dortmund s'ils veulent aller à Wembley en finale. Pour rappel, le PSG s'était incliné 1-0 au match aller. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Sonia.
Merci, Barbara. Je vous dis à tout à l'heure pour le rappel des titres. À l'instant, on me dit sur les réseaux sociaux, mais Sonia qui ne répond pas au questionnaire, qu'a-t-elle à cacher ? J'ai rien à cacher, justement. Rien du tout. Bon, on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission. Comment ?
Oui, il faudra répondre.
Il faudra répondre. Bon, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. À la fin de l'émission, tout d'abord, regardez ce qui se passe à Sciences Po Paris, où, alors je ne sais pas s'il faut parler, mais écoutez, oui, d'un nouveau rassemblement. Nous allons retrouver sur place notre journaliste, Célia Barat. Célia, nous en parlons avec nos invités, avec le risque ou la probabilité de nouveaux rassemblements, voire de blocus. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. À l'instant, vous voyez passer ce titre. Nous en parlerons aussi. Hein. C'est une professeure qui soutient le blocage de Sciences Po. Vous verrez pour cela quel acte elle a mis en avant. Mais tout d'abord, Célia, pouvez-vous nous raconter, nous expliquer l'ambiance et le contexte sur place ?
Eh bien Sonia, déjà ce matin, il y a eu une première tentative de blocage de l'établissement Sciences Po par une vingtaine d'individus. Le préfet de police a demandé l'intervention immédiate des forces de l'ordre pour débloquer les deux entrées de l'établissement Sciences Po. Il y a eu deux interpellations et puis avec mon journaliste, nous nous rendions à la place de la Sorbonne et sur notre chemin, nous avons vu qu'un nouveau rassemblement à Sciences Po était en cours, un rassemblement pour l'instant qui se déroule dans le cadre. Il y a des affiches, des slogans, des drapeaux. Plusieurs élèves qui affichent aussi un kéfier en soutien à la situation palestinienne. Pour l'instant, aucune prise de parole. Il y a quelques médias également sur place. Aujourd'hui, c'était une journée importante pour les étudiants de Sciences Po puisque certains élèves passaient des examens. Ils ont pu faire leurs examens en entrant par une porte annexe de l'établissement. Nous ne savons pas si aujourd'hui ce mouvement va se poursuivre tout au long de la journée, mais en tout cas, il y avait plusieurs actions d'organiser tant à Sciences Po que cet après-midi à la Sorbonne.
Je vous remercie Célia Barot. Évidemment, vous revenez vers nous si vous avez de plus amples informations. Mais c'était le risque ou la probabilité que ces rassemblements ou blocages ou blocus reprennent. On va laisser l'image en direct vous faire réagir. Et aussi sur ce qui s'est passé, j'aimerais vous entendre. C'est une professeure, une enseignante qui soutient le blocage de Sciences Po et qui le montre en acte, qui a différé le rendu d'un examen. On va voir le sujet dans quelques instants et qui, par cet acte-là, en tous les cas, eh bien, donne raison à la fois à ceux qui se mobilisent, aussi à la direction de Sciences Po qui, vous le savez, a suspendu les éventuelles sanctions contre les bloqueurs. Voyons ce sujet ensemble et on en parle juste après.
Dans un mail envoyé vendredi dernier à des élèves de master, une enseignante accorde un délai supplémentaire pour le rendu d'un devoir. Pour justifier sa décision, elle évoque le mouvement pro-palestinien, mené pourtant par une poignée d'étudiants.
Considérant les mobilisations en solidarité avec la Palestine légitime et les défis de maintenir un environnement d'apprentissage apaisé pour la fin du semestre, nous avons décidé de prolonger la date de rendu de 2 jours.
Une mobilisation qu'elle qualifie de légitime, un terme employé qui pose question. La charte de déontologie de Sciences Po invite les professeurs à une certaine mesure.
Les titulaires de fonction au sein de l'Institut d'études politiques de Paris bénéficient de la liberté d'opinion. Ils veillent toutefois à ce que leurs opinions n'altèrent pas l'exercice de leurs fonctions.
Pour ce syndicat étudiant, aucun doute, le parti pris de cette enseignante est intolérable.
La professeure a fait un choix différent, c'est-à-dire de donner de but en blanc son avis, alors même que certains étudiants ne sont pas forcément d'abord d'accord et puis ensuite subissent en réalité ce qu'elle considère être légitime. Ce n'est que le symbole de ce qui se passe de manière générale dans certaines universités et aussi à Sciences Po et que l'UNI dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire la présence de l'extrême gauche jusque les sphères hautes de certaines universités.
Agacés par la teneur de ce mail, certains parlementaires du groupe Renaissance ont contacté la direction pour exiger des explications. Pour le moment, Sciences Po ne s'est pas exprimé sur le sujet.
C'est assez cocasse, c'est-à-dire contacter la direction qui elle-même finalement a diffusé une forme de sentiment ou de réalité d'impunité, puisque la direction provisoire n'a pas confirmé du tout les sanctions. On a un retour, pardonnez-moi, à l'antenne de Célia, qui nous montre, et je remercie par ces images qui est en train de se passer devant Sciences Po Paris. Comment vous réagissez, Sophie Audugé? Probablement à la reprise, je reste quand même prudente, mais voyez ce qui est en train de s'installer de nouveau.
Oui, alors plusieurs choses par rapport à la situation à Sciences Po. Bon, d'abord, ce n'est pas nouveau. On a eu une jeune fille de confession juive qui avait été interdite d'entrer. À ce moment-là, on a cru que Gabriel Attal avait faire quelque chose en tant que Premier ministre. Il n'a rien fait, comme d'habitude, je dirais. Ce qui se passe à Sciences Po est très grave à plusieurs titres. Tout d'abord, Sciences Po, c'est une école supérieure. Publique. Elle est financée par des fonds publics, elle est financée donc par nos impôts. À ce titre-là, elle a des obligations de neutralité, des obligations de laïcité, des obligations de respect des valeurs de la République. Ces valeurs sont déjà plus respectées depuis bien longtemps. On sait très bien que la sélection à Sciences Po est faite notamment en excluant majoritairement des élèves des établissements privés. Il est connu depuis bien longtemps que les élèves, par exemple, du lycée prestigieux qu'avait tant parlé Stanislas, c'est-à-dire quand ils ont un de leurs élèves qui est accepté à Sciences Po, c'est extrêmement rare. À ce titre-là, moi, je trouve qu'on devrait quand même parler de ça, parce qu'au moment où il y a ce blocage, il faut savoir que les élèves de terminale recevaient leur réponse s'ils étaient admis ou pas à Sciences Po. Et moi, j'aimerais bien... Vous voyez, j'invite Gabriel Attal à se pencher sur ce sujet-là. Et je pense qu'il serait utile de faire une enquête indépendante pour savoir à quel motif et sur quels critères objectifs les terminales de cette année ont été admis à Sciences Po. Vraiment, j'invite Gabriel Attal à le faire. Parce qu'il s'avère que nous, à SOS Éducation, on a reçu des dossiers qui posent quand même question. Vous voyez, soit sur des noms d'enfants qui sont manifestement de confession juive, si vous voulez, qui avaient des notes excellente. Quand je dis excellente, c'est-à-dire que c'était le premier de classe.
Attendez, c'est d'une gravité.
Je demande une enquête. Je dis rien de plus. Tout le monde sait très bien, si vous voulez, que dans certains établissements privés où on a un niveau d'élite et d'excellence, les enfants ne sont pas pris à Sciences Po, quand d'autres qui ont un niveau bien moins important sont pris. Or, vu qu'il n'y a plus d'examen, il faut bien que les critères de sélection se fassent sur quelque chose. Donc je demande, c'est un établissement public payé avec nos impôts, qui normalement doit être loyal vis-à-vis de jeunes qui ont 18 ans et moins de 18 ans, qui ont travaillé sérieusement pour rentrer à Sciences Po. Moi, je demande qu'il y ait une vérification sur des critères objectifs.
Très important ce que vous dites, on va le suivre. Simplement, je voudrais décrire en direct le député de la France Insoumise, vous voyez, ceint de son écharpe tricolore, lui, Boyard. Bon, là, vraiment, et puis, pardonnez-moi, mais la parole, la légitimité de cette parole publique, il y a encore quelques jours, le président disait oui au débat, non au blocage. Voilà le blocage. Ça pose un véritable souci. Alors, évidemment, avec l'appui et plus que
d'autant
ça...
D'autant plus qu'ils ne sont qu'une vingtaine à effectivement bloquer. Donc là, on est sur tout le paradoxe.
C'est bloqué, oui.
Non, mais écoutez, vous avez raison. Ils ne représentent pratiquement rien. Mais bon, face à un État faible, face à également une direction... De Sciences Po qui a fait preuve à tout le moins de passivité voire de lâcheté, eh bien ils occupent le terrain et on revient sur les affrontements entre minorités. Moi je rajoute que là, comme ça, il y aurait eu dizaines de générations identitaires qui auraient bloqué l'entrée, ça aurait été réglé dans la minute.
Oui, alors malgré ces images déplorables, il y a quand même eu une bonne nouvelle hier, c'est que la mobilisation anti-israélienne qui avait été lancée dans lycée par les mêmes a totalement échoué.
Il y a eu, restons prudents, ouais,
quatre,
vous avez raison.
Pour l'instant, il y a eu quatre alors, lycées occupés. Donc, évidemment, c'est un mauvais signal que ça recommence à Sciences Po. Mais quand on regarde le paysage global, tant universitaire que scolaire, en fait, il y a quelques points noirs, quelques endroits gangrénés, toujours les mêmes, ce qui devrait rendre facile de rétablir la situation pour un pouvoir qui aurait un peu de suite dans les idées, un peu d'autorité et un peu de courage.
Tout à fait, avec des banderoles. Des banderoles, All Eyes on Rafah, c'est-à-dire tous les yeux braqués sur Rafah, puisque l'offensive est en cours. Alors notre journaliste Célia Barotte nous indique qu'il y avait une vingtaine de personnes, ils sont une centaine désormais, qui bloquent avec, vous le voyez, les tentes, les drapeaux, les slogans qu'on n'arrive pas à percevoir, on va essayer aussi de les entendre. Et puis la présence députée LFI.
Bien sûr, mais ça c'est assez classique. En revanche, il faudrait quand même revenir sur cette déclaration de cette professeure de Sciences Po qui vient, donc d'un point de vue personnel, elle soit solidaire avec ses élèves, ça peut se comprendre. Mais de là à, je dirais, perturber le rythme d'enseignement, finalement, avec un décalage du rendu des... pour une cause qui, certes, je dirais, il y a la question de l'antisémitisme, mais le fait qu'on s'inquiète de ce qui se passe à Gaza, ça peut être légitime, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la vraie question, c'est pourquoi quelque chose qui se passe quand même loin de chez nous. C'est pas quelque chose qui met en péril quand on perturbe les cours. Sciences Po, une partie des établissements avait été fermée en mai 68 parce qu'il y avait une insurrection étudiante, il y avait des choses qui concernaient. Là, on est quand même sur quelque chose qui se passe de l'autre côté de la planète, certes qui intéresse, qui passionne et qui est très polémique,
mais
qui est quand même très loin.
Regardez.
C'est là où je
trouve ça très intéressant.
Vietnam a vaincu, Palestine vaincra.
Vous savez pourquoi quel jour est-on aujourd'hui?
Évidemment,
c'est la fête de c'est l'anniversaire
de la chute du corps retranché. Voilà. Mais il y a une continuité.
Mais il faut se souvenir que aujourd'hui Sébastien Lecornu rend hommage aux soldats de Dien Bien Phu. Mais il faut se souvenir de l'affiliation. On parlait du FLN tout à l'heure, mais déjà les communistes sabotaient des grenades.
L'Union des femmes françaises. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, même la CGT, il y a eu...
Il y avait des voies qui avaient été... des voies ferrées qui avaient été sabotées. Ils crachaient sur les soldats.
Sur les blessés qui arrivaient à Marseille.
Ils disaient qu'il ne faut pas de sang pour ces soldats-là, vous savez, pour les transfusions. Donc, ce n'est pas nouveau. Et cette filiation, elle est extrêmement claire. Et pourquoi tout le monde est très complaisant avec eux? Parce qu'en fait, au gouvernement et dans nos élites politiques, nous avons des gens qui ont milité à l'UNEF, qui ont été des agitateurs, qui se reconnaissent en réalité et donc qui n'arrivent pas à leur faire peur et qui ne veulent pas leur faire peur.
Mais attention, ce ne sont pas des manifestations, des rassemblements pro-palestiniens, ils sont anti-israéliens. En tous les cas, ils l'étaient là, je ne vais pas faire... Voilà, de procès d'intention, mais enfin c'était assez clair quand on entend leur slogan. On va voir ceux qui sont tenus. Nous sommes avec Célia, si vous avez pu entendre. Bon, les revendications, on les connaît, mais est-ce que c'est toujours les mêmes slogans qui sont affichés?
Oui, Sonia, alors bien sûr, il y a des slogans qui expliquent tous les yeux sur Rafah. Il y a aussi des slogans pour comparer la situation du Vietnam. Le 7 mai 1954, Vietnam a vaincu. Rafah, la Palestine, vaincra aujourd'hui. Il y a aussi des pancartes qui dénoncent les deux interpellations qui se sont déroulées ce matin. Des pancartes qui expliquent... Deux étudiants de Sciences Po en garde à vue, d'autres pancartes qui expliquent qu'ils sont en grève de la faim. Donc ce matin, deux personnes ont été interpellées selon la préfecture de police de Paris. Et donc ce mouvement à 13h actuellement est aussi en protestation concernant ces gardes à vue. Je vous rappelle, aujourd'hui c'était une journée importante pour l'ensemble des étudiants de Sciences Po. Il y avait des examens de fin d'année qui étaient en cours. Certains étudiants déploraient de ne pas pouvoir accéder à cet établissement d'études ce matin. Ils ont dû passer par une porte annexe de l'établissement pour pouvoir réaliser leur examen. Nous sommes entretenus également avec des agents de sécurité qui disent que ce matin la situation était très tendue. Le mobilier urbain a été utilisé pour bloquer les portes de Sciences Po. Une intervention de la police a été nécessaire pour déloger les manifestants qui bloquent la rue. Là, vous le voyez sur les images d'Axel Rebaud, il y a deux tentes qui sont installées en pleine route.
Merci beaucoup Célia. Bon là, manifestement, le blocus est de nouveau totalement installé avec quand même quelque chose qui est très grave. Nous sommes en période d'examen avec une entrave physique.
Hein, il y a 5000 étudiants à Sciences Po Paris.
5000 étudiants dont certains ont été empêchés. En tout cas, on a voulu les empêcher par l'installation de mobilier urbain. Que fait la direction provisoire? Peut-être qu'elle est occupée à organiser un nouveau town hall dont je vous rappelle qu'il a fini quand même avec des slogans anti-israéliens, anti-juifs dans le hall justement.
Il a traité la direction de Sciences Po d'assassin aussi.
Ouais, oui, tout à fait.
Complice d'assassin. Donc non, mais ils se sont laissés piétiner. Non, mais on parle d'autorité toute la journée. Et là, on nous dit que c'est une toute petite minorité de gamins finalement. Et personne n'est capable de les faire tenir en place. On s'est même inquiété de savoir si des lycéens n'allaient pas rentrer dans la bientôt des écoles maternelles. Non, mais ça va être compliqué d'aller donner des preuves d'autorité à l'international quand on n'est pas capable de faire rentrer ça dans le rang. Hein.
Général.
Et là c'est le grand questionnement sur l'état de droit, sur toute la cohérence de notre édifice. On laisse faire cela. En plus, c'est une minorité. Je ne comprends pas dire l'enjeu. Quel est l'enjeu derrière de laisser faire cela?
C'est la peur de l'étincelle. Donc, malheureusement, c'est souvent l'explication. C'est la peur d'intervenir, la peur.
Et encore, parce qu'on pourrait comprendre.
Parce que je voudrais juste ajouter quelque chose. Les banlieues n'ont pas, contrairement à ce que certains ne se sont pas embrasées.
Mais là, nous sociologiquement,
le plus beau quartier de Paris. Et dans les plus grandes écoles.
On pourrait comprendre éventuellement s'il y avait des heurts ou des affrontements entre cette majorité silencieuse et cette minorité agissante. Mais la majorité silencieuse, elle est non seulement silencieuse, mais invisible.
On est sur une fin de l'histoire, là aussi, parce que ces jeunes, là, d'abord, ils sont de plus en plus minoritaires, parce qu'ils étaient beaucoup plus influents il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, c'est du petit bourgeois à recherche d'exaltation à bon compte. Hein, comme je parlais, qui sont sur des émotions sélectives. Et ce que je disais tout à l'heure, les abonnés de des impostures morales. Mais que représentent-ils ?
Vous-même avez dit que les minorités font souvent l'histoire. Là, on voit en pleine conversation, si je puis dire, le député, lui, Boyer. Mais c'est vraiment avec l'écharpe tricolore, sans de l'écharpe tricolore, vous voyez le symbole aussi. Nous sommes dans une campagne des européennes où le sujet... fût-il légitime de Gaza ou de Rafah, est en train de percuter une campagne électorale
plus,
où il devrait être question d'Europe.
Contre son camp, quelque part, parce que la voix de Manon Aubry est devenue totalement invisible. Même leur propre candidate, finalement, est submergée par la défense de la question
elle est
de Gaza.
Donc, par quelque chose Hassan.
D'extrêmement international, qui, quelque part, a ses limites au niveau du peuple français et des gens qui votent.
Ce qui est intéressant, Rima Hassan devait tenir une conférence à Paris Dauphine et il y a eu une circulaire, le nom m'échappe, mais l'université a interdit la justice administrative a donné raison et donc je crois que la conférence est pour fin mai.
Oui, tout à fait.
Donc voilà. On peut dire aussi, je crois que vous n'aimez pas la judiciarisation du débat politique.
Non, mais j'aime pas non plus la mise à disposition de locaux payés par le contribuable français pour faire campagne. Ça me paraît tout à fait bizarre. Et je déplore aussi que, en fait, la France insoumise n'ait aucun adversaire politique devant elle. Je n'ai pas vu de demande de candidat de droite concernant un meeting à Sciences Po, par exemple.
Pas que de droite, d'une autre gauche.
Il y a des associations qui essaient de les faire venir, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'on leur dit très vite, et on l'a vu par le passé, que pour des questions sécurité, ça ne va pas être possible de l'organiser, parce qu'il y a des antifas qui manifestent à l'entrée.
Eh bien, il faut le faire, il faut mettre cette discrimination en évidence.
Oui, mais on dit que c'est de la provocation.
Oui, voilà.
Quelqu'un de droite.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça nous ramène...
Il ne faut pas abandonner le terrain.
Bien sûr, non, mais je veux vous prêcher une convertie, mais c'est vrai que dans les faits, ceux qui essaient de le faire, c'est très extrêmement compliqué. Mais moi, je trouve que ce spectacle nous renvoie au débat du début. C'est-à-dire que Louis Boyard, il n'a plus rien à dire au peuple français, enfin, à l'électorat historique. Vous savez, à l'affaire de Colombe, il n'a plus rien à dire. Donc, ils n'ont plus qu'un sujet, c'est Gaza, parce qu'ils se persuadent qu'en répétant Gaza, 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 ils vont récupérer l'électorat des banlieues, ils le draguent outrageusement, et ils n'ont plus que ça à vendre. Ils n'ont plus rien d'autre. C'est terrible de voir que cette gauche a été complètement... vidé de sa substance initiale et de ce qui était, semble-t-il, son objet, en tout cas.
L'électorat des banlieues, il peut être aussi déstabilisé par la passivité des États arabes, sachant que les gens des banlieues sont pour la plupart des gens qui ne sont pas arabes.
Il va y avoir des fils qui se touchent, parce que quand il va y avoir la convergence des luttes entre les trans les Palestiniens, les militants palestiniens, ça va être compliqué à gérer.
Et puis il y a une autre chose qu'il faut régler, c'est-à-dire que qu'on ait de la compassion, comme cela a été dit, pour les Palestiniens, mais que cette ultra-gauche puisse soutenir...
C'est pour ça que, général, je voudrais faire vraiment
soutenir le Hamas.
Parce que vraiment...
Soutenir le Hamas, c'est...
Est-ce qu'ils ont eu la même banderole le 8 octobre, le lendemain du massacre du 7 octobre?
Non, ils n'ont pas eu. Ils ont même poussé vers la sortie de manière violente le fameux collectif...
Non, on a des jeunes. Mais Anna Arendt a tout dit en disant que l'avènement totalitaire a pulvérisé les critères de
Mais je pense que c'est important de dire, général, que ce ne sont pas des manifestations... En tous les cas, je ne parle pas... Généralement, ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, mais anti-israéliennes, et même qui nient l'existence d'Israël. C'est ça le cœur de notre débat, parce que sinon, je crois qu'on rentre dans une dérive qui est très, très compliquée ensuite.
Oui, je voulais ajouter que ce qui se passe là est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Le problème à Sciences Po est bien plus complexe, bien plus global. Il y a un problème de direction qui dure depuis plusieurs années. Il y a effectivement un entrisme islamo-gauchiste dans l'université qu'on connaît parfaitement et qui aujourd'hui a pris une mesure qui nous dépasse complètement et notamment qui dépasse nos dirigeants, en premier desquels le Premier ministre. La position de cette enseignante, c'est la position des enseignants du supérieur qui ont une liberté totale dans leur expression. Et ça, on le voit dans toutes les universités. Je rappelle quand même que Sciences Po, il y a 3-4 ans, alors qu'il est interdit d'utiliser l'écriture inclusive, donner des notes supplémentaires à ces étudiants qui l'utilisaient. Donc ça, c'est pas nouveau non plus. Il me semble que ce qui est en jeu là, on fait beaucoup un parallèle avec les universités américaines. Sauf que les universités américaines, elles sont privées, elles sont cotées, si vous voulez. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Moi, il me semble que c'est une entrave à l'instruction du supérieur française. On se demande bien ce que fait la ministre du supérieur. Enfin, je veux dire, Mme Retailleau brille par son absence. Et le peu de fois où on la voit, c'est pour dire des bêtises. Il me semble qu'il est important que ces élèves soient sanctionnés de manière très dure.
Ils vont
perdre leur année.
Ils ont gagné une victoire.
J'espère que non, j'espère qu'ils seront sanctionnés. Et moi, ce qui me semble incroyable, c'est qu'il s'agit quand même de Sciences Po, hein, l'école la plus élitiste au niveau des sciences politiques. Et je ne comprends pas comment la direction n'a pas pu rassembler ces élèves en leur disant « Écoutez, vous avez un propos intéressant, une analyse sur la situation, produisez un journal. »
Quand on a diffusé il y a quelques jours la réaction juste après le débat qui a eu lieu. D'ailleurs, débat, on se demande quelle est la situation d'un débat, si on débat de quoi. Bien sûr qu'il peut y avoir un débat sur la situation à Gaza et là à Rafah, mais la question c'est que et le directeur provisoire l'a dit lui-même. Il dit certains étaient très très émus de ce qui était dit. Donc, imaginez...
Les gendarmes qui arrivent, mais mettez des mots sur les choses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, là ?
Les étudiants, alors, ils sont notre fierté, alors on langage inclusif.
Il n'y a pas une prise de risque ignorante. Hein.
Et derrière, bon, les forces de l'ordre ne bougent pas pour l'instant, mais...
Et une rue de Paris est bloquée, quoi.
Oui, mais pourquoi vous
Et en arabe, c'était l'espoir.
On ne pose pas les vrais mots en
différentes langues, donc anglais, espagnol.
Et pourquoi arabe, on ne dit pas les choses telles qu'elles sont ? C'est-à-dire que, écoutez, vous avez des jeunes qui sont ultra minoritaires, qui sont sur une idéologie totalitaire. Ce sont des totalitaires qui bloquent l'entrée d'une université, en l'occurrence de l'IEP, qui sont pour partie ouvertement anti-sionisme, et François Hollande rappelait récemment que l'anti-sionisme...
Avec apparemment quelques idiots utiles, je vous interromps, toujours les mêmes, des mouvements...
Oui, mais vous avez un comportement, dès lors qu'on dira, ce sont des petits fascistes, bien qu'ils aient l'air un petit peu hirsutes et de pénalistes...
Alors, me semble-t-il, ce sont des professeurs, c'est ce que nous dit notre journaliste Célia Barat, des professeurs en solidarité avec leurs étudiants. Donc là, c'est vraiment la convergence des luttes, si je puis dire, mais pas celle à laquelle...
Au sein de Sciences Po.
Oui, d'ailleurs, on voit, pardonnez-moi, pour certains d'entre eux qui sont plus âgés que leurs
étudiants. La direction est totalement isolée quand on voit...
Mais est-ce qu'elle est ici isolée ?
Et on peut légitimement se demander de fait, à partir du moment où il y a une sélection beaucoup moins objective, puisque plus sur des critères scolaires, mais sur des critères de personnalité, de lettres de motivation, de dossiers, etc., se demander s'il n'y a pas une forme de subjectivité. C'est vrai que vous avez raison de poser la question.
Moi, je pense que ça serait intéressant de faire...
Il y a une homogénéité idéologique qui pose question.
Si vous voulez, c'est toute une jeunesse qui travaille tout le lycée pour accéder à des enseignements qui la font rêver. Moi, il me semble qu'on doit à la jeunesse la transparence sur les conditions de sélection. Ça me semblerait quand même quelque chose d'important.
Donc vous voyez cette image avec cet homme qui harangue, en tous les cas, qui... on va essayer d'écouter ce qu'il dit, avec, vous le voyez, ses slogans dans toutes les langues.
en soutien aux Palestiniens. Alors semble-t-il, ce sont pour certains, en tous les cas, des professeurs. Oui, confirmation, ce sont bien des professeurs de Sciences Po. Donc à la question, que fait la direction et les enseignants? Et une partie, je ne vais pas essentialiser, eh bien vous avez la réponse sous vos yeux. Les enseignants se sont joints à leurs étudiants.
Enfin, la posture morale, elle n'est pas nouvelle. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un continuum dans l'université française.
Mais là, vraiment, là, que les professeurs participent, là, le cap, il y avait encore un cap, il a été franchi. On est passé de l'autre côté complètement.
On peut filer la comparaison, la métaphore du général Cavalier de tout à l'heure. Imaginez des manifestants identitaires, manifestants, par exemple, sur le sujet de l'immigration, avec des professeurs qui les rejoignent. Mais évidemment que vous n'imaginez pas ça une minute, ce serait absolument impossible. Donc cette scène montre la domination du magistère de l'extrême gauche dans l'enseignement supérieur. C'est dramatique. Et moi, je ne sais pas où est Sylvie Retailleau. Elle avait un menhir à livrer. C'est quand même dramatique, son absence.
Des professeurs et des enseignants certainement syndiqués, Célia Barotte. Célia, je le dis avec prudence, parce que la fois dernière, où nous étions ici, notre journaliste a été prise à partie, ainsi que notre caméraman. Ce sont effectivement, Célia, des professeurs, des enseignants, en tout cas un syndicat de professeurs.
Oui Sonia, donc nous étions en train de filmer et d'assister à ce rassemblement, ce blocage de manifestants. C'était des étudiants devant l'établissement par leurs professeurs. Alors ils ont été acclamés. Les étudiants ont souligné que leur faculté les soutenait. Ils les remercient. Et puis vous voyez toutes ces pancartes, toutes ces affiches de professeurs qui apportent leur soutien à ce mouvement et aussi à leurs étudiants qui protestent depuis plusieurs jours. Un premier blocage a eu lieu ce matin. Deux étudiants ont été placés en garde à vue, des gardes à vue qui sont toujours en cours. Et puis ces professeurs qui viennent de rejoindre le cortège, un cortège qui grandit, grossit de plus en plus. Là, on est vraiment à plus d'une centaine de personnes qui occupent la rue Saint-Guillaume à Paris.
Voilà, avec, vous le voyez, les étudiants nous donnent de l'espoir. Donc, comme nous l'a confirmé Célia, ce sont bien des enseignants, des syndicats d'enseignants. La question que je me pose, puisqu'on a vu le député La France Insoumise, c'est... Il pourrait y avoir d'autres. D'ailleurs, il y a eu d'autres responsables politiques qui étaient venus. Sylvain Maillard, Renaissance, est venu. Et d'ailleurs, il a eu un accueil plutôt direct, dru. Il pourrait y avoir d'autres.
Manuel Valls pourrait peut-être venir.
Mais avec quel accueil?
Ah oui, mais il serait refoulé.
Parce que s'ils sont pour le débat, dans ce cas-là.
Non, mais c'est révélateur. Une uniformité. Ça a été parfaitement identifié. Il y a deux gauches. Il y a une gauche républicaine, il y a une gauche qui veut respecter l'état de droit, une gauche qui a une position équilibrée vis-à-vis de ce qui se passe en Israël, et puis vous avez cette ultra-gauche qui est heureusement ultra-minoritaire et qui est dans ce continuum idéologique depuis 50 ans. Il n'y a rien de nouveau de ce point de vue.
On revient à ce que vous disait David Lislard ce matin. La vraie inquiétude, c'est la majorité silencieuse.
Oui, c'est ça, parce que c'est une minorité qui est quand même dominante. Et vous avez raison de le dire, il y a toute une majorité qui fait le passe-muraille, voire qui essaie de se faire passer, même
au
moment des euros d'ailleurs.
Minorité qui est dominante dans certains endroits, parce qu'on sent bien, moi ce qui m'intéresse aussi c'est la finalité de tout ça. On sent bien que c'est à Sciences Po, qu'à Sciences Po ils sont rois, en gros ils occupent les locaux, les profs les soutiennent, mais visiblement il n'y a pas de contamination dans les autres facs françaises, à part l'Égide de Lille et quelques petits endroits. Donc à quoi ça va leur servir de refaire systématiquement ce raout, parce que ça ne gagne pas.
C'est leur manière d'être. Vous avez des jeunes.
Ça ne gagne pas, ça a gagné là les enseignants et les professeurs.
Oui, mais
c'est une alliance assez inédite.
Ça reste.
Auprès de qui faut appeler à la responsabilité?
C'est quand même.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.